Cette théorie, elle est déjà en acte, puisqu'elle a inspiré un certain nombre de lois, non seulement sur le plan international auprès des organismes onusiens, mais également dans des pays de par le monde. Donc cette théorie, ce n'est plus simplement un concept sur lequel on réfléchit, mais c'est vraiment une réalité qui transforme des conditions de vie, on change le sens de la famille, on change le sens des relations entre les hommes et les femmes, on change les relations entre les parents et les enfants, et on change le sens de la sexualité humaine et de la procréation.
Comment cela se fait-il que cette théorie se répande aussi rapidement et pourquoi? Quels sont les objectifs?
Le principe qui a présidé à cette nouvelle conception des choses, c'est l'égalité de tous devant la loi pour éviter toute discrimination. Et donc, pour arriver à cette fin, il faut reconsidérer autrement la sexualité, non pas partir de l'aspect biologique qui pourtant définit notre corps sexué et notre être sexué d'homme et de femme, mais c'est de présenter donc une autre conception en disant il y a le sexe biologique qui marque le corps au masculin et au féminin, mais il est tout à fait accessoires, on peut le comparer à la couleur des cheveux, à la forme du nez, des pieds. Bon. Deuxièmement, il y a le masculin et le féminin qui représentent une construction sociale du modèle de l'homme et de la femme, qui serait donc construit par la culture, par la société, qui peut varier d'une époque à une autre. C'est le sexe social. Alors c'est vrai que dans ces notions de masculin et de féminin, il y a toujours une part psychologique et une part sociale, mais notre sexe serait réduit en quelque sorte à cette assignation sociale. Et puis, troisième considération, la sexualité ne se comprend plus en termes de différence sexuelle de l'homme et de femme, mais en termes de différence de sexualité à partir de l'homosexualité, l'hétérosexualité, la transsexualité, le travestisme, la bisexualité, et on peut comme ça en ajouter par dizaines.
Quels sont les risques concrets en matière de santé publique?
Le risque concerne principalement à isoler la femme de la relation à l'homme, en laissant entendre que c'est la femme qui doit à la fois supporter et tout décider en matière de procréation. Au titre maintenant de l'étude du vivant, il n'y a plus d'étude de l'homme. On veut mettre tous les vivants à égalité, même avec les animaux. Et par exemple, la sexualité humaine est souvent comparée à la sexualité des bonobos. Vous voyez, ce sont des petits singes qui sont très actifs sur le plan sexuel, avec une sexualité qui régule les rapports sociaux. Et donc, on dit aux jeunes, vous voyez comment font les bonobos, ils s'expriment sexuellement pour réguler leur agressivité. Il n'y a pas de conflit, c'est vraiment le meilleur des mondes, c'est extraordinaire, ça peut être un modèle pour nous. Seulement, quand on étudie les bonobos, on sait que ça dure à peine 8 secondes, c'est une façon de ventiler leur agressivité. Je ne sais pas si en se sautant les uns sur les autres à la mode des bonobos dans le métro ou je ne sais où pour réguler des conflits personnels ou sociaux, on arriverait au même résultat. Mais on va dans ce genre d'aberration en nivelant au maximum. Il va y avoir des problèmes psychologiques parce qu'on va créer des problèmes identitaires, des problèmes pour situer la sexualité non pas reproductive mais procréative dans le cadre même de la santé. Et on forme des vœux pour que la recherche scientifique permette la fabrication d'un utérus artificiel à partir duquel les enfants pourront se développer. Vous voyez bien toutes les conséquences que ça pourra avoir sur la représentation même que nous avons de l'enfant, sur sa vie psychologique. C'est-à-dire qu'on est en train de déshumaniser la sexualité humaine et en laissant entendre que deux personnes de même sexe formeraient un couple, alors ce qui est faux. Au même titre qu'un homme et une femme, puisque il n'y a qu'un homme et une femme qui sont capables de former un couple et non pas deux personnes de même sexe qui sont dans l'ordre du duo, du partenariat.
Alors vous avez dit explicitement dans votre intervention qu'il existe un colonialisme de la pensée occidentale imposé à l'Asie et à l'Afrique sous la pression des institutions internationales et vous accusez directement les agences onusiennes et l'OMS, pourquoi?
Et c'est la réalité depuis maintenant une quinzaine d'années. La plupart des gens ignorent ce qui se passe au nom de la théorie du genre, parce que on voit la transmettre à travers des séries télévisées. En France, Plus belle la vie est plein de ces clichés. Donc ça passe dans les médias. Ça passe évidemment en Asie et en Afrique, qui ont des besoins énormes en termes de santé publique et puis d'éducation et de scolarisation des enfants, si bien que la plupart des chancelleries européennes, des agences onusiennes comme l'UNESCO et l'OMS lorsqu'elle propose un financement pour bâtir une école, un dispensaire, un hôpital ou autre, et en sachant qu'en Asie et en Afrique, l'Église détient énormément d'institutions scolaires et hospitalières, alors il propose le financement, mais dans la mesure où vous appliquez ce qui est prévu par les conventions, quelques conventions internationales pour banaliser toutes les thèses du gender et en particulier l'homosexualité. Sinon, vous n'avez pas de financement. On est dans cette forme de chantage. Alors, il y a beaucoup de pays africains qui acceptent parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, ils sont les prisonniers d'un nouveau colonialisme idéologique de la part de l'Occident. C'est-à-dire que le marxisme a été remplacé par l'idéologie du genre, et puis d'autres refusent, notamment des évêques qui refusent de recevoir des subventions de l'UNESCO ou de l'OMS. Ils n'ont pas envie de vendre leur âme, alors ils vont, avec leur bâton de pèlerin, prêcher à droite et à gauche en Europe pour récolter quelques sous pour bâtir leur école et leur dispensaire. Mais là, nous sommes devant une espèce de totalitarisme intellectuel dont la cheville ouvrière, ce sont les agences tunisiennes et la commission de Bruxelles pour imposer cette égalité, cette non-discrimination au nom du genre.
Alors vous participez à une réunion d'évêques, justement, que peut faire l'Église ?
Je pense qu'il faut faire attention à sa façon de parler, parce que par exemple, quand on dit « il ne faut pas parler de la famille, mais des familles », ça y est, on est dans le langage de la théorie du genre. Au même titre, quand on parle de gouvernance, c'est très joli, la gouvernance, ça aussi, c'est un vocabulaire qui appartient à la théorie du genre, parce que la gouvernance, qu'est-ce que c'est ? C'est pas le gouvernement de gens qui ont été élus, c'est le gouvernement des experts, des spécialistes qui vont être nommés par des instances internationales. Regardez ce qui se passe à Rome, qu'est-ce qui se passe à Athènes, ce sont des gouvernements qui sont nommés ailleurs. Et donc les citoyens ont l'impression d'être dépossédés de du jeu démocratique. C'est pareil quand on utilise le mot de parentalité. Ça fait très joli, parentalité, mais ça n'a rien à voir avec la notion de parenté. On veut diviser la parenté entre ce qu'on appelle la parenté biologique, qui n'a pas beaucoup d'importance, la parenté sociale, c'est celui qui va donner le nom à l'enfant, et puis la parenté éducative, qui sera celle des adultes qui se succéderont dans la vie affective de ses parents. Donc on va vers un univers complètement éclaté, avec une vision très désincarnée de la personne humaine, de la sexualité humaine, même une sexualité qui va se déshumaniser. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on disait ? On disait, c'est le sexe qui fait le genre. Aujourd'hui, on nous dit, non, c'est le genre qui fait le sexe. C'est-à-dire que notre corps s'arrête à notre cou, ça ne va pas plus loin. Et c'est important qu'en termes de pastorale de la famille, et je ne dis pas des familles, mais je dis bien de la pastorale de la famille, l'Église travaille avec des gens compétents pour essayer de faire passer le message de ce qu'est un couple homme-femme, ce qu'est la famille, ce qu'est le mariage. Donc là, nous sommes à nouveau engagés dans un combat qu'il faut mener avec patience et courage, même si on a l'impression que la cause semble un peu perdue parce que le genre a pris forme maintenant dans des lois, puis on se réveille, on est prisonnier dans ces lois, les lois, ça se fait, ça se défait.